franceinter.fr.
Ce que la poésie a peut-être de plus fort pour moi, là où elle m'est la plus précieuse, c'est qu'elle est constamment une préparation à comprendre la vie et donc à comprendre la mort. Pour moi, la mort a été, à certains moments de ma vie très proche, puisque je l'ai frôlée plusieurs fois. Aujourd'hui, que j'atteins l'âge où la mort est là, tout proche, elle ne pourra plus guère tarder maintenant à venir accomplir ma vie. Je la considère avec beaucoup de respect, je la considère avec beaucoup, avec une attente très amicale. La mort est pour moi une amie, je sais qu'elle est là, je sais qu'elle prendra son temps, qu'elle trouvera son heure. Elle est aussi sans doute le commencement d'un rapport de cet être que nous sommes avec une autre dimension de l'être. Non seulement elle ne me fait pas peur, mais je pense qu'elle m'accueillera avec la même gentillesse que j'ai été accueilli tout au long de ma vie par les êtres que j'y ai rencontrés. Je lui fais confiance.
Bonjour, les AMG. Je suis de gauche. Je suis en deuil. Stéphane nous quitte. Stéphane Hessel. Indignez-vous, tous les mouvements. Continuons notre combat. Nous sommes quelques-uns. Nous sommes tous des résistants. Pour aujourd'hui, nous sommes en deuil. Mais demain, il y a l'espoir.
Bonjour Daniel, bonjour les MG. Un petit message parmi de nombreux autres, j'imagine, pour faire part de mon émotion à l'annonce de la disparition de Stéphane Hessel. Bien avant qu'il devienne cette icône de l'indignation, je l'avais connu à l'occasion d'un couple d'émissions de Zoé Varier. Le talent de Zoé Varier à le faire parler et la lumière de l'esprit de ce grand monsieur m'avait vraiment marqué. Il était incroyable d'esprit, de volonté et de jeunesse. Preuve que la jeunesse n'est pas une question d'âge. Je me souviens qu'il disait à l'époque « Je gueule, personne ne m'entend. » Alors indignons-nous. Au revoir, monsieur Stéphane Hessel. C'était Maud d'Épernay.
Stéphane Hessel, adieu et merci Stéphane Hessel.
Un homme intègre est mort, donc Stéphane Hessel. Voilà, je voudrais dire à tous nos pseudo-politiques qui prennent exemple sur cet homme, parce que l'intégrité est loin d'être une qualité de nos politiques. Voilà. Hommage à Stéphane Hessel. Au revoir.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour aux auditeurs. Je viens d'apprendre le mort de Stéphane Hessel et dire que Pasqua est toujours vivant. Je suis indigné.
Stéphane Hessel est mort. Je crois que plutôt que de grands discours, de grandes cérémonies, le meilleur moyen de lui rendre hommage, ce serait enfin de se décider une bonne fois pour toutes, un bon coup, à vraiment s'indigner, voire à vraiment se révolter. C'est peut-être de ça dont il serait le plus content et le plus fier, si d'aventure il y a quelque chose après. Viva et ciao à tous.
On nous dit que Stéphane Hessel est mort, mais c'est pas vrai. Nous venons tout juste d'arriver à Séville avec Antoine Chao, et qui nous rencontrons en arrivant à Séville, des indignados, les indignés. Et ils nous disent bonjour, on est les indignados. Voilà, c'est l'hommage rendu tout de suite au célèbre indignez-vous, son mot de désordre lancé contre le mot d'ordre dominant, la résignation, l'impuissance, la collaboration. Indignez-vous, révoltez-vous, évidemment, là-bas si j'y suis, s'associe aux hommages qui arrivent de tous les côtés. Et nous, c'est en janvier 2009, en pleine opération Plomb durci, l'opération de l'armée israélienne contre Gaza, que Stéphane Hessel était venu nous dire son indignation à ce moment-là. On va demander à notre ami Dominique Vidal, qui est historien, journaliste au monde diplomatique, très proche de Stéphane Hessel, de nous parler de lui. Mais auparavant, encore quelques messages très indignés sur le répondeur de la base où j'y suis.
Salut Daniel, Je t'appelle suite à l'émission que tu as faite sur les PPP, partenariats public-privé. Et moi, je suis chauffeur routier, et ces gens-là, je les livre. Je les livre tous les jours. Là, actuellement, je livre le stade Vélodrome depuis un an. C'est la société Arema qui s'occupe des travaux. Et c'est un PPP, le stade Vélodrome. Donc, on ne sait pas combien ça va coûter. Mais je livrais aussi la prison de Corba quand j'habitais à Lyon en 2005. C'était FH qui faisait les travaux. Ce qui me révolte dedans, c'est que partenariat public-privé, on n'avance pas l'argent, on paye un loyer, etc. Ça coûte plus cher, vous avez très bien démontré ça dans votre émission. Mais il faut voir ceux qui travaillent là-bas. Là, actuellement, au stade Vélodrome, c'est des Roumains, c'est des gens qui viennent de Hongrie, c'est des Bulgares. Je ne connais pas leur contrat de travail. Il faut voir ce qu'il y a là, je ne sais pas combien ils sont payés, 400, 500, 600 euros. Ils travaillent 10 heures, 12 heures, 13 heures par jour. C'est hallucinant. Et à la prison de Corba, il y avait des femmes. Elle faisait de la maçonnerie, je te promets. Moi, je voyais ça de mes yeux tous les jours. Je la livrais, la prison à Corba. Donc, les capitalistes, ça leur fait plaisir, partenariat public-privé. Le traité constitutionnel, ça leur fait plaisir.
Bonjour, moi, je voulais dire que j'ai fait mes études d'infirmière. Pendant mes études d'infirmière, j'ai fait des stages dans les maisons de retraite et dans des services de long séjour. Et les infirmières et aides-soignantes qu'on envoyait là-bas, c'était en représailles, en punition qu'on les envoyait travailler dans ces services-là. Donc ça éclaire bien sur l'état d'esprit qui pouvait y régner. Et oui, effectivement, j'ai vu malheureusement beaucoup de maltraitance. C'était vraiment le mot. J'allais en pleurant, je repartais en pleurant encore plus fort. Et c'était le petit pouvoir qui reste à quelqu'un qui est en bas d'une certaine échelle sociale. Et le petit pouvoir qui lui reste, c'est sur les personnes âgées ou les malades, tellement fragilisée. Donc j'ai vu des horreurs. Et quand ma mère a été incapable de vivre seule parce qu'elle avait la maladie d'Alzheimer, je l'ai évidemment, il a été hors de question que ça se passe autrement, je l'ai prise à la maison avec nous. Et c'était pas triste du tout la maison, enfin c'était dur, mais il y avait aussi beaucoup de rires, beaucoup de danse, beaucoup de pleurs, beaucoup de disputes, beaucoup de tendresse. Elle est morte à la maison et pour rien au monde, j'aurais pu imaginer que ça se passerait autrement. Et mes enfants, ils n'en ont pas pâti. Ça les a amenés à être très attentifs aux souffrances des autres et à accepter les gens différents et les moyens de communication particuliers. Ils n'ont jamais jugé et ils sont restés ouverts à beaucoup de choses. Voilà, donc ne les laissons pas, nos vieux, nos petits vieux, ne les laissons pas dans les endroits pareils.
Oui, bonjour, PPP. Dans ma boîte de transport, mon patron m'a interdit d'utiliser l'autoroute Pau-Bordeaux, parce qu'en fait, elle est hyper chère. Quand je dis hyper chère, apparemment, ça coûte un œil à chaque fois. Mais en même temps, ça coûte cher à l'utiliser, mais ça coûte cher à ceux qui ne l'utilisent pas. Parce qu'évidemment, le même principe que pour tout le restant, le conseil général, tout ça, enfin la région, ont garanti aux constructeurs que de toute façon, ils auraient un certain chiffre d'affaires. Et que si ce chiffre d'affaires n'était pas atteint, c'est eux qui paieraient, la région qui paierait la différence en fin d'année. Donc le constructeur, lui, il s'en fout réellement. Alors je n'ai pas le nom du constructeur, mais ça va être FH ou un truc comme ça. Qu'on l'utilise ou pas, de toute façon, lui, en fin d'année, c'est payé, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Et les gens qui habitent aux alentours, ils payent également pour cette putain d'autoroute.
Le fait qu'une collectivité publique ne soit pas propriétaire de ses locaux a des conséquences sur une question qui peut paraître minuscule pour certains, à savoir la santé des employés sur leur lieu de travail. Ayant été médecin du travail pendant 25 ans dans une grande collectivité territoriale, je peux te dire, Daniel, qu'il est pratiquement impossible d'obtenir des aménagements dans des locaux dont on est locataire. Modifier des cloisons, ouvrir une fenêtre, intervenir sur les huisseries, toucher au système de ventilation, rénover un sol dégradé, tout cela est très compliqué. Et d'ailleurs, les responsables ont souvent beau jeu de te répondre que ça ne va pas être possible car on est locataire. Au contraire, dans des locaux qui sont à nous, on peut, même si c'est très difficile, agir pour de meilleures conditions de travail. Ainsi, dans notre hôtel du département tout neuf, où beaucoup d'agents commençaient à présenter les symptômes évoquant le syndrome des bâtiments malsains, on avait obtenu avec le CHS et les syndicats le remplacement de la moquette dans les 600 bureaux. Et en quelques années, ce revêtement bon marché qui se dégrade vite et qui sert de nid aux acariens a été remplacé par des dalles souples, très faciles à entretenir. Je n'ose même pas imaginer le résultat de notre action si nous avions été locataires.
PPP comme pillage du public par le privé, bien sûr.
Ouais, salut Daniel. Bah écoute, ton émission sur les PPP, je t'avoue que comme secrétaire général de la FSU de Seine-Saint-Denis, j'ai un peu les boules. Parce qu'en 2010, on était quand même bien tout seul à se battre contre ces bazars de PPP, là, quand le conseil général de Seine-Saint-Denis il a fait son coup politique sur l'école, avec ses 12 collèges, ses 9 gymnases. C'est la plus grosse opération de ce type jamais menée en France dans le domaine de l'éduc. Et je t'avoue qu'on avait vraiment gueulé tout seul. Tous ceux qu'on entend là dans ton reportage, on aurait bien aimé qu'à ce moment-là, ils nous filent un coup de main. Parce que des collèges en PPP, bien sûr, c'est une question de fric, c'est plus cher. Bien sûr, on sait, EPHAGE, tout ça. Mais en même temps, c'est le cheval de Troie de la privatisation. Avec des conséquences directes sur l'enseignement, sur la qualité des bâtiments. Je ne sais pas si tu sais, mais le CG, il a inventé un truc qui s'appelle le collège type. T'es plus dans une architecture autour des besoins pédagogiques, de tout ce dont ces mômes ont besoin, mais sur une architecture marchande. Tu réfléchis d'abord à tout ce que tu peux louer, et puis le reste, on verra après. Et puis toutes les conséquences directes, les personnels, les statuts qui sautent, et puis quelle latitude vont avoir ces personnels-là, que ce soit les enseignants, mais aussi les chefs, les gestionnaires face à tel groupe. Et quand t'as un CG qui est tellement endetté, comment tu veux qu'il se fasse respecter ?
Alors, non seulement EPHAGE se fait des testicules en métal précieux sur notre dos, mais en plus, si on tombe malade, on atterrit dans un hôpital construit à la va-vite avec des matériaux bas de gamme. Bon, d'un côté, ça se comprend, c'est EPHAGE qui a le monopole de la maintenance, alors plus ça se dégrade vite, plus les profits grimpent. Les actionnaires sont contents et ils vont se faire soigner dans des cliniques privées haut de gamme. Mais voyons le bon côté des choses. Dans 30 ans, les ruines, elles seront à nous.
Oui, bonjour, Ousseni, 44 ans, au Réveil-Vitical en Champagne. Ce qui est vachement amusant, j'écoute France Inter là, c'est que ils se sont rendus compte que les Israéliens torturaient les Palestiniens qu'ils en mouraient. Ça, c'est de l'information. On n'aurait jamais cru que les Palestiniens étaient opprimés. Là, honnêtement, on ne se serait jamais douté. Mais je ne peux pas en dire plus, parce qu'on va me dire que je suis antisémite.
Un petit signe encourageant pour l'Espagne, devant la multiplication des saisies effectuées par les banquiers, qui non seulement mettent les gens dehors, mais qui continuent en plus de leur réclamer ce qu'ils doivent en crédit sur la maison qu'ils donc ne possèdent plus, un nombre croissant de juges, de policiers, mais aussi d'huissiers de justice refusent de se prêter à ce jeu-là, de participer au système, et ça, quand de telles catégories professionnelles se donne la désobéissance civile, ça sent bon la révolution.
Eh bien, c'est exactement pour ça que nous sommes ici, à Séville, en Espagne, pour retrouver les indignados, pour retrouver des familles expulsées. Il faut rappeler qu'il y a 3 millions d'Espagnols à la rue, 400 000 procédures d'expulsion, dont 200 000 ont été exécutées. Donc, ça fait beaucoup de gens qui sont à la rue et donc qui occupent des immeubles ici à Séville et qui organisent leur vie. Alors, on va retrouver Stéphane Hessel dans une émission qui date de 2009, de janvier 2009, du 8 janvier 2009. C'est très important parce que c'était lors de l'opération Plomb Durcier, vous vous souvenez, comment l'armée israélienne frappait Gaza, vous vous souvenez de cette tension et des résultats de cette offensive qui a duré 21 jours, avec près de 1500 Palestiniens tués, des dizaines d'enfants, on a dit que plus de 400 enfants avaient été tués dans cette offensive, et voilà quelque chose qui indignait particulièrement Stéphane Hessel, qui était venu nous donner son point de vue et son analyse et nous faire part, là, pour le coup, de son indignation concernant ce conflit. Auparavant, comme je l'ai indiqué, on va retrouver Dominique Vidal, notre ami Dominique Vidal, historien, journaliste au monde diplomatique, et qui a été très proche de Stéphane Hessel.
Écoutez, moi, je connaissais Stéphane depuis des années, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler plus étroitement, disons, avec lui depuis 2010. C'était l'époque, peut-être les auditeurs, si j'y suis, s'en souviennent, où Michel Alliot-Marie prétendait traîner devant les tribunaux les militants qui appelaient au boycott des produits des colonies israéliennes. Et lui-même, Stéphane, avait été mis en cause. Et donc j'avais été le voir en lui proposant de lancer une pétition qui s'intitulerait « Pétition de solidarité avec Stéphane Hessel et toutes les victimes de la répression ». Il n'avait pas hésité un instant, on avait fait le texte très vite, et je dois dire que ce texte avait eu un écho formidable, au point d'ailleurs, et ça y a contribué, qu'aucun militant n'a été condamné grâce à la mobilisation qui s'était faite autour de cet appel. Il y a même eu un épisode, bel épisode, je trouve, pour des raisons que je préfère ne pas rappeler ici. La directrice de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm avait interdit une conférence débat avec Stéphane Hessel et avec des invités israéliens et palestiniens. C'était une décision quand même rare. Hein. À Ulm, normalement, on débat librement. Et voilà ce qui s'est passé, c'est que le jour prévu pour le débat, à la même heure, on s'est retrouvé 10 fois plus que prévu dans la petite salle de la rue d'Ulm, sur la place du Panthéon. Il y avait au bas mot 1500 personnes. Et Stéphane s'est adressé à la foule. Et je crois que c'est un très, très beau souvenir. Stéphane Hessel, c'est quelqu'un qui avait la Palestine au cœur. Ça lui tenait particulièrement à cœur parce que, sans doute, c'était d'une part quelque chose qui lui rappelait qu'il était pour moitié juif d'origine et que le fait que le gouvernement israélien fasse tout ce qu'il fait au nom des juifs, au nom du judaïsme, ça lui était particulièrement pénible. Cela dit, Stéphane n'est pas quelqu'un qui avait une obsession de la Palestine. Il était mobilisé par toutes les causes. Et moi, je me souviens de nombreuses causes dans lesquelles il s'est engagé. Et il s'y est engagé avec la même ferveur qu'il a mise dans la solidarité avec le peuple palestinien. Je me souviens en particulier quand il est rentré d'un voyage à Gaza avec Régis Debray. Et c'était assez... Le soldat Gilad Shalit était encore prisonnier là-bas. Et il fallait bien que Stéphane trouve une manière, tout en rencontrant les autorités du Hamas, de poser la question. Et donc il avait, avec Régis Debray, eu une idée que je trouve très belle. Il avait demandé au premier ministre Hamas de Gaza des nouvelles de Gilad Shalit et il avait même demandé si c'était possible de le voir. Voilà, c'est typiquement ce que Stéphane était capable de faire, c'est-à-dire à la fois tenir sur ses positions de principe, de solidarité, mais la solidarité, elle valait aussi pour un prisonnier détenu comme prisonnier et dont il voulait avoir des nouvelles. Ce qui me frappait le plus dans toutes les expériences que j'ai eues avec Stéphane, de nombreux meetings, de nombreux débats, des rencontres, c'est combien le courant passait entre lui et les jeunes. C'était très frappant. Je crois que cet homme qui les appelait à s'indigner, qui les appelait à se battre pour des valeurs qui en valent la peine, ils l'entendaient alors qu'ils entendent mal la classe politique telle qu'elle est, quoi. Je crois qu'il y avait une leçon de vie chez lui, une belle personne forte de ses valeurs, et ça donnait un écho, je dois dire, assez étonnant hein, à ses rencontres avec les jeunes. Dernier souvenir, peut-être, c'est pour moi ce que je garderai surtout de Stéphane, c'était un amoureux de poésie. Je me souviens qu'un jour, on lui avait offert une anthologie bilingue de la poésie allemande. Alors, il ouvrait le livre, il voyait le titre d'un poème et immédiatement, il refermait la Pléiade et il nous récitait le poème, soit en français, soit en allemand, au choix. Et c'était un homme qui était capable de réciter des dizaines et des dizaines de poèmes. Et je crois que, quelque part, le rapport qu'il avait avec la poésie, c'était le cœur même de son humanité.
Voilà, merci à Dominique Vidal. On va retrouver Stéphane Hessel avec cette phrase magnifique « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Stéphane Hessel.
Flight number 2, arriving from New York.
J'étais à New York au moment où on a créé l'État d'Israël.
48.
L'année 48, à la fois, c'est mon année Déclaration universelle des droits de l'homme, sur laquelle on m'a fait parler, que, comment ça s'est passé en 45, 48. Mais j'étais là aussi pour la création et pour la Convention sur le génocide. Tout ça, ça a été cette année 48 qui a été prodigieusement importante. Et quand on a créé l'État d'Israël, j'avais un ami guatémaltèque, López Herarte, qui m'a dit, on vient de faire une grave erreur.
Pourquoi ?
Écoutez, vous voulez rire, après la Shoah, il fallait un État pour les Juifs, et c'était la moindre des choses, je suis très heureux qu'on ait cet État. Il m'a dit, oui, mais on a eu le tort de l'implanter dans une région qui est peuplée d'Arabes.
Oui, puisque la phrase célèbre était...
un peuple sans terre pour une terre sans
pour
peuple.
Pour une terre sans peuple, c'était le principe même du sionisme. Voilà, on est avec Stéphane Hessel, on a commencé la conversation. Et ben voilà, on est déjà dans le sujet. Je demandais à Stéphane Hessel si la première fois qu'il était allé en Israël. Et voilà, alors là, on est à la création de l'État d'Israël et avec cette phrase qui était la... qui était le fondement même du sionisme. Mais en 1948, et dans les années qui ont suivi, la création de cet État d'Israël suscitait quand même un certain enthousiasme, un soutien.
Un énorme enthousiasme. Pour moi, c'était, je dirais, pour quelqu'un qui avait fait la guerre, qui avait été dans les camps de concentration, qui avait vu des Juifs venus d'Auschwitz dans un état épouvantable, passer par Dora pour aller à Bergen-Belsen. J'étais donc de ceux qui disaient il faut maintenant que les Juifs aient enfin un État. Et c'est très bien. Et comme ils sont déjà nombreux en Palestine, comme les Anglais leur ont déjà promis depuis quelque temps qu'ils auraient un foyer juif, eh bien, il est tout à fait normal que ce soit dans cette région du monde, qui est la leur, historiquement, millénairement, que l'on fasse un État. Mais bien entendu, il faut, et les Anglais eux-mêmes y tiennent, parce que les Anglais ont une politique arabe, il faut que ce soit divisé équitablement, une partie pour les Juifs, une partie pour les Arabes. Et c'est ça qui a tout de suite dysfonctionné, puisque tout de suite les Arabes ne l'ont pas accepté, et que, il faut bien le dire, les sionistes en ont profité pour combattre contre les Arabes, ce qui était leur droit, mais pour, du coup, prendre beaucoup plus d'espace en Palestine que ce que les Nations Unies avaient préconisé. Les Nations Unies avaient dit 55 pour les Juifs, 45 pour les Arabes, et nous en sommes à 78 pour les Israéliens et 22 pour les Arabes.
22 pour les Arabes, pour les Palestiniens, et encore, c'est pas fait du tout. On voit bien que c'est pas fait.
Absolument. Sur les 22, déjà, à peu près 15% de ces 22 sont occupés par des colonies illégales, des colonies que les Nations Unies considèrent comme illégales. En plus, le mur qui a été construit en bouffe encore une partie. Donc maintenant, la disproportion, comme on aime à dire, est énorme entre ce qui reste aux Palestiniens pour faire un jour un État, ça va être très difficile, et ce que les Israéliens ont déjà accaparé.
Et d'autant plus aujourd'hui, cette mise un peu en perspective que vous venez de faire rapidement, on assiste à des heures dramatiques, impuissants que nous sommes, à Gaza. Et surtout avant-hier, on a vu cette école des Nations Unies, une école des Nations Unies, qui a été bombardée par l'armée israélienne, faisant 40 morts, dont un certain nombre d'enfants. Il y a deux autres écoles qui ont été également visées. Enfin, et puis il y a ces populations civiles qui sont... On voit les images, c'est absolument dramatique. Les quelques témoignages qui nous parviennent encore de Gaza, parce qu'on en a de moins en moins de l'intérieur, au fur et à mesure que les habitants perdent leurs ressources, l'électricité, les piles pour les appareils, etc. Ce qui font qu'on a de moins en moins de témoignages qui nous viennent de l'intérieur. On sait aussi que les autorités israéliennes refusent à la presse internationale de rentrer à l'intérieur du territoire, si bien qu'on a très peu de témoignages. Comment vous, Stéphane Hessel, comment vous percevez ça? Comment vous ressentez ça?
Je le perçois avec d'autant plus d'émotion et d'horreur et de scandale
que j'ai été tout récemment là-bas à Gaza avec cette excellente organisation qui s'appelle La Voix de l'Enfant et qui est encore sur place maintenant à Jérusalem, à Ramallah, essayant de garder le contact avec Gaza et qui m'envoie régulièrement des informations sur ces horreurs que vous venez de décrire et qui continuent, qui n'ont pas encore pris fin. Et c'est ce qui me fait dire que l'opération israélienne contre Gaza est une contre-performance absolue. À quoi va-t-elle servir? Est-ce qu'elle va mettre un terme au bombardement de Sderot et des autres localités? Est-ce qu'elle va permettre de mettre une fin à l'action du Hamas? Mais non, mais en revanche, elle va rendre l'image d'Israël, même en France, parmi des gens qui cependant ont plutôt de la sympathie pour Israël, ça va être de plus en plus difficile de ne pas être révulsé par la façon dont les Israéliens se comportent et l'armée israélienne se comporte à Gaza.
Vous connaissez le poids des mots, tout le monde sait que vous avez participé à l'élaboration du texte sur la déclaration des droits de l'homme ou des droits humains, enfin on connaît votre sens des mots. Hein, le poids des mots, là, il fallait que les mots soient très précis. Est-ce que vous parlez aujourd'hui d'un crime contre l'humanité pour ce qui se passe à Gaza?
Je préfère employer le mot crime de guerre, et qui me paraît plus lié à ce qui se passe, parce que c'est faire une guerre alors qu'on n'a pas d'ennemis organisés nationalement. On ne fait pas la guerre contre un État, on fait la guerre contre des miliciens, des militants, des gens qui veulent la libération de leur territoire. Et ce genre de guerre est criminel. Nous l'avons vu au Vietnam, faite par les États-Unis. Nous l'avons vu en Russie, faite contre les Tchétchènes. C'est exactement un crime de guerre. Je n'emploierai pas le mot génocide, qui veut dire que c'est une race ou une ethnie que l'on veut détruire. Les Israéliens ne veulent pas détruire les Arabes, ils veulent détruire les Palestiniens. C'est donc plutôt un politicide, c'est un mot qui est employé d'ailleurs par mon ami Warshawski pour définir la façon dont se comportent actuellement les Israéliens.
Alors, il faut, quand on emploie un mot comme celui-là de crime de guerre, il faut être conséquent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mener une action pour que les responsables comparaissent devant une cour pénale internationale?
Ce serait absolument légitime, car les responsables connaissent le poids des mots. Ils savent ce que c'est qu'une destruction systématique organisée. Leurs ancêtres en ont été les victimes. Je ne dis pas qu'il faut comparer ce qui se passe à Gaza à ce qu'ont subi les Juifs en Allemagne du temps de la Shoah, mais la violence utilisée contre un peuple, l'impossibilité qui lui est faite d'avoir enfin cet État auquel ils aspirent depuis 60 ans, c'est vraiment un crime. Et un crime de guerre, lorsque on utilise des moyens militaires énorme, 5e armée du monde, contre une population qui n'a que des petites roquettes pour se défendre.
Notre impuissance, elle est celle aussi des Nations Unies. L'école qui a été bombardée est une école qui est sous le contrôle et sous la responsabilité, sous la gestion des Nations Unies. On sait tout le rôle de l'UNRWA à Gaza.
Oui.
Et de façon permanente, les autorités israéliennes s'assoient sur les résolutions des Nations Unies. Encore tout récemment, les États-Unis, non pas les Nations Unies, mais les États-Unis ont mis leur veto à une résolution du Conseil de sécurité qui demandait un cessez-le-feu immédiat. Alors, ça, c'est les États-Unis qui mettent leur veto.
C'est un des drames, c'est que les États-Unis se sentent tellement liés à Israël, qui est leur principal allié dans la région, et dans une région où ils ont beaucoup d'ennemis à combattre. Alors, ils ont aussi des alliés, mais ils ont des ennemis. Ils tiennent à avoir Israël comme ami. Donc, ils profitent de leur situation privilégiée au sein du Conseil de sécurité, où ils disposent du droit de veto, pour protéger constamment les positions israélienne. Heureusement, mardi dernier, ils ont changé leur politique et pour la première fois, ils ont demandé un cessez-le-feu au Conseil de sécurité. Il y a donc là un progrès, de même qu'il y a eu ce progrès, de demander enfin un couloir humanitaire. Nous, avec les voix de l'enfant, nous le demandions depuis 5 jours déjà. Et enfin, peut-être, cette possibilité d'apporter au moins un concours à ces malheureux. Et vous, cher Daniel Mernet, vous parlez justement du rôle des Nations Unies, l'UNVRA. L'UNVRA est responsable d'à peu près 70% des habitants de Gaza qui sont dans un nombre considérable de camps. Ça devrait être une protection. Les Israéliens n'en tiennent aucun compte.
Alors, de la même façon que Jimmy Carter, l'ancien président des États-Unis, qui a publié un livre récemment, La paix, pas l'apartheid. Vous essayez d'influencer, vous essayez de donner votre point de vue, vous allez là-bas, vous allez sur le terrain, vous rencontrez des gens, et vous dites une chose, vous dites si on a peur, si les journalistes, les chercheurs, les hommes politiques, les États, voire même l'Europe tout entière a peur, c'est qu'il y a ce chantage à l'antisémitisme. Il y a ce soupçon d'antisémitisme, il y a même parfois des accusations d'antisémitisme, et vous voyez là une des raisons de cette impunité israélienne.
Oui, oui, je suis en effet convaincu qu'une timidité politique à l'égard de l'État d'Israël est présente non seulement chez les Allemands, qui auraient quelques raisons d'avoir encore des restes de cette timidité, mais chez tous les Européens, et il faut dire que la France elle-même, du temps de Vichy, a contribué au tort fait aux Juifs. Pour cette raison, au lieu de traiter Israël comme n'importe quel pays qui a des intérêts à défendre, qui doit les défendre, qui doit défendre sa sécurité, mais qui doit le faire en accord avec le droit international et avec des appuis sérieux, mais des appuis objectifs, au lieu de cela, on le considère comme un État auquel il ne faut surtout pas toucher, parce que dès qu'on dit quelque chose de négatif sur la politique israélienne, on est tout de suite traité d'antisémite. Je suis persuadé que moi-même, aux yeux de beaucoup de mes amis juifs, je frise l'antisémitisme parce que j'ose dire que la politique israélienne me paraît criminelle et stupide à la fois. Criminel, c'est sûr, et stupide parce que l'intérêt d'Israël, l'intérêt à moyen, long terme d'Israël, ne peut être que l'existence à côté d'Israël d'un vrai État palestinien avec lequel ils peuvent entretenir le partenariat qui ferait de cette région du monde, de ce Proche-Orient, une zone de paix et de prospérité.
Alors vous savez très bien ce qu'on vous répond quand vous parlez comme ça en Israël du côté de ce qu'on peut appeler les faucons. On vous dit oui, mais très bien, vous avez raison, mais il n'y a personne en face. Nous n'avons pas d'interlocuteur. Nous, on aimerait bien faire la paix. On aimerait bien faire la paix, mais avec qui? Et qu'est-ce qu'on a en face? Des terroristes. C'est le Hamas. On ne peut pas parler avec ces gens-là. Encore tout récemment, le représentant du CRIF a dit « on ne parle pas avec le Hamas ».
C'est évidemment la meilleure façon de maintenir le statu quo pour les Israéliens, de dire nous n'avons pas d'interlocuteur. Rappelons que chaque fois qu'un interlocuteur s'est présenté, ils se sont rapidement organisés pour que cet interlocuteur-là n'ait plus l'écoute des Palestiniens. Ils en ont suscité un autre. Quand c'était Arafat, ils ont suscité le Hamas. Maintenant que c'est le Hamas, voilà qu'ils essayent de donner la voix à Mahmoud Abbas, mais sans lui donner encore le moyen d'être au moins populaire auprès des Palestiniens, parce qu'il n'obtient rien en échange de son énorme bonne volonté. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'avoir un interlocuteur, mais on sait aussi que quand on veut régler un problème dur, il faut avoir pour interlocuteur le plus dur et pas le plus mou. C'est avec le plus dur que l'on traite. Si aujourd'hui Israël avait un contact avec le Hamas en lui disant quelles sont vos exigences pour arrêter les bombardements? Quelles sont vos exigences pour traiter pour une paix entre Palestiniens et Israéliens? Je peux vous dire ce que répondrait le Hamas. Je le sais par mon ami Aubin de la Messuzière, qui en a parlé avec les dirigeants du Hamas. Ils veulent le retour aux frontières de 67. Ils ne parlent plus que de façon symbolique de la destruction éventuelle un jour de l'État d'Israël. Ils savent bien que c'est complètement chimérique et ils seraient prêts à appuyer les résolutions du Conseil de sécurité, le retour aux résolutions 242 et 338. C'est comme ça que la paix peut être faite aujourd'hui.
Quelle est la solution pour vous, Stéphane Hessel? Vous avez déclaré quelque part la solution des deux États israéliens et palestiniens est devenue caduque.
J'avais malheureusement, au mois d'avril 2008, au cours d'un voyage là-bas, rencontré des gens qui me disaient « ce n'est plus possible, les Israéliens ont trop démoli ce qui aurait pu être la création d'un État ». Ils ont fait trop de colonies, ils ont fait trop d'occupations, ce n'est plus possible. Et maintenant, il va y avoir un seul État, Israël, et cet État va avoir une population dont une forte fraction se trouvera en état d'apartheid. C'était un mot auquel je ne me prêtais pas. Et je continuais à dire non, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution humaine, ce n'est pas une solution historique, ce n'est pas une solution politique. Il faut en revenir aux deux États. Et aujourd'hui, c'est plus clair. Et maintenant, même parmi les Israéliens, Ehud Olmert lui-même a laissé entendre que la solution des deux États lui paraissait la solution. Mais quels deux États ? Alors là, nous entrons dans un autre problème. quelles seraient les limites, les dimensions et l'organisation d'un État palestinien viable s'il ne dispose plus que d'une fraction du territoire tout étroite et qu'il n'a même pas sa capitale à Jérusalem, aucun dirigeant palestinien sérieux ne pourra traiter là-dessus avec Israël. C'est cela à quoi les dirigeants israéliens faucons, appelons-les ainsi, et qui sont contents d'être faucons parce que ça va leur permettre d'être élus au mois de février. Le plus faucon aura le plus de chances d'être élu. Alors eux disent, oui, il faudra un jour que les Palestiniens aient quelques petits lambeaux de territoire et que nous puissions garder l'essentiel de nos colonies, notamment autour de Jérusalem. Quant à leur laisser la possibilité d'avoir leur capitale à Jérusalem, c'est pas possible. Jérusalem, c'est Israël et Israël seulement. Ils ne parlent même pas des chrétiens qui ont aussi un droit d'existence à Jérusalem.
Est-ce que c'est viable ce projet des faucons ? Vous avez une expérience considérable. Vous étiez au Vietnam, vous étiez en Algérie, vous avez vécu la décolonisation, les décolonisations. On sait très bien que les peuples colonisés finissent toujours par se libérer. Alors je ne dis pas, parce que je sais très bien ce qui est déjà en train de se dire dans certaines chaumières, je ne dis pas qu'il y a colonisation des territoires, mais je dis qu'il y a un fait colonial dans les territoires. Vous êtes d'accord avec cette définition ?
Absolument.
Est-ce que cet horizon est viable de réduire l'État palestinien à quelques petits bantoustans dans lesquels on pourrait faire un peu des casinos comme on l'a fait dans les territoires indiens des États-Unis ? Est-ce que c'est possible ?
Si on pense que ce sera un jour accepté par un dirigeant palestinien, particulièrement Colombe, et que Mahmoud Abbas dont il pourrait être la préfiguration. Si on pense qu'un jour ce sera acceptable par un dirigeant palestinien qui pourrait être soutenu par la population palestinienne dans son ensemble, on se trompe. On se trompe. Un tel projet, une telle façon de régler le problème n'arrivera jamais à mettre un terme à la volonté forte des Palestiniens de continuer à se battre, de continuer à militer pour avoir un vrai État. Et ça se comprend. Ils savent trop ce que c'est que les Bantoustans. Et là, on retrouve le mot d'apartheid. Ils peuvent se dire que les Bantoustans, c'est ce qui a existé précisément en Afrique du Sud. Et que si on aboutit à des Bantoustans, eh bien alors là, oui, là, cette fois, on pourra parler d'apartheid. Et on sait qu'une apartheid se termine ou par des violences ou par une reprise de conscience de ceux qui la mène, c'est-à-dire par un changement radical dans la politique israélienne. Une véritable perestroïka, comme dirait mon ami Gorbatchev. Il faudrait que les Israéliens aient enfin conscience que cette voie vers des Bantoustans, ça ne mène à rien pour eux, à aucune sécurité pour eux, et que leur sécurité dépend de l'existence d'un véritable État.
Vous disiez, et on a compris, que ce qui se passe actuellement à Gaza a pour cause les élections du 10 février, hein, avec cet enjeu entre les trois partis et les trois leaders, les trois candidats que l'on connaît. Mais s'il y a ces trois candidats, avec leur programme, si l'un des trois sera élu, c'est qu'il y a des électeurs, il y a une opinion en Israël. Et on sait actuellement que cette opinion, dans l'état des choses, est favorable à cette offensive.
C'est ce qu'il y a de plus attristant. Je peux espérer que les images que l'on a projetées ces derniers jours, notamment dans la journée de mardi, que ces images vont quand même révolter la conscience de pas mal de mes amis israéliens et qu'ils ne soutiendront plus la façon dont est menée cette opération. Mais pour que l'opinion se transforme, pour que l'opinion accepte, il faut se dire que le système politique israélien est malheureusement constituée de telle manière que les partis qui seraient favorables à la paix n'arrivent pas à obtenir une majorité à la Knesset. Le peuple israélien a été berné par ses dirigeants, a été convaincu par ses dirigeants depuis des années maintenant qu'il n'y a que la violence, qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Et tout cela, ce sont des mensonges et c'est de l'hypocrisie contre laquelle je me bats. Je voudrais que l'on sache que ceux qui, en Israël, disent qu'il n'y a pas d'autre solution que la violence, eh bien, qu'ils soient considérés comme des gens qui dupent et qui trompent la population israélienne.
Alors, ce qu'il faut saluer quand même, au passage, même s'ils sont minoritaires, c'est tous ces militants de tout poil depuis des années, et là, toujours aujourd'hui, peut-être plus aujourd'hui que d'habitude, lutte pour la paix, oui. Milite, essaye de trouver des idées, manifeste. Les Israéliens ne se réduisent pas à cette caricature de faucon.
Non. Heureusement, il y a tous nos amis depuis Mikado, Warshawski, Uri Avneri, Amos Oz, d'une certaine manière, insuffisante, mais quand même, et Abraham Burg, qui a dit des choses tout à fait intéressante à cet égard, mais ils n'arrivent pas à trouver, si vous voulez, Meretz, ça ne suffit pas, le Gush Shalom, c'est trop petit, il n'y a pas vraiment un mouvement pour la paix. Il n'existe pas encore, demain existera-t-il ? Il faut l'espérer, car c'est ça la solution pour ce pays.
Stéphane Hessel, je voudrais qu'on parle maintenant d'ici, qu'on revienne dans notre petit hexagone, où on s'inquiète beaucoup, on dit « Oh là là, ces images sont épouvantables, on a vu la manifestation de samedi dernier dans les rues de Paris, de soutien aux habitants de Gaza. On a vu aussi la manifestation le lendemain, dimanche, autour de l'ambassade d'Israël à l'appel du CRIF. » Et je voudrais vous lire une phrase de Richard Prasquier, qui est le président actuel du CRIF.
Oui.
Il a déclaré ceci dans le Figaro du 5 janvier 2009. Je vous lis sa phrase. « Je peux vous dire que 95% de la communauté juive de France est en accord avec la politique d'Israël et avec ce qu'entreprend son armée. » Fin de citation. Qu'est-ce que vous pensez d'une déclaration comme celle-là ?
Je crains que M. Pasquier se trompe. Je connais beaucoup de juifs qui sont en désaccord profond, l'UJFP par exemple, et beaucoup d'autres. Je suis entouré d'amis juifs qui manifestent contre la politique actuelle du gouvernement intérimaire israélien. Mais je reconnais que la tendance naturelle des Juifs en France et d'un grand nombre d'entre eux est de vouloir d'abord soutenir ce pays, comprendre ce pays. Et il suffit que les dirigeants israéliens expliquent, comme le fait avec beaucoup de capacité, de conviction, Tzipi Livni ou Ehud Barak, que tout ce que nous faisons, nous, Israéliens, c'est de maintenir notre sécurité et de ne pas laisser 500 000 Israéliens à portée de quelques bombes et de quelques roquettes de la part du Hamas, pour que beaucoup de Juifs, peut-être pas une majorité, sûrement pas 95%, mais peut-être 50%, se disent « il ne faut surtout pas dire de mal de ce pays » qui nous est quand même extraordinairement proche et extraordinairement cher. Moi, je leur réponds, ce pays qui m'est aussi cher à moi qu'à vous et dont je voudrais voir le succès dans une paix et une prospérité, doit avoir des dirigeants qui soient capables de comprendre que la seule solution pacifique pour eux, c'est l'existence d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël.
Stéphane Hessel, je vous remercie, mais je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Là, on ne parle que de ce sujet-là, on pourrait parler de 1000 sujets avec vous. Mais je sais que vous êtes célèbre pour ça, connu pour ça, pour votre... mais pour votre affection pour la poésie.
Ah oui.
On va finir avec ça. Et je vais vous lire quelques lignes d'un poète qui s'appelle Louis Aragon.
Ah oui, un grand poète.
Un grand poète. Le ciel était gris de nuages. Il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke.
Très joli.
Et ça, c'est d'Aragon.
Oui, oui.
Pourquoi est-ce qu'Aragon, dans cet extrait, évoque Rainer Maria Rilke, le chant triste des oies au-dessus des maisons des quais?
Peut-être que Aragon a compris le message fondamental de Rainer Maria Rilke, qui est un de mes poètes allemands favoris. Que voulait dire Rilke? Il disait: nous sommes les abeilles qui butinons le visible pour le rendre invisible. C'est-à-dire que notre rôle sur cette terre est de comprendre suffisamment ce qui nous entoure, d'en être suffisamment proche pour le préserver dans la façon dont nos vies successives contribuent à créer une invisibilité permanente de l'humain. C'est l'humain en nous, et donc je reviens par là à René Cassin et à ma déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'humain en nous que la poésie doit pouvoir sortir de sa gangue matérielle pour le rendre invisible et immortel.
Et en allemand, ça donne quoi?
Rainer
Maria Rilke?
Non, là je ne trouverai pas un vers. Je vous propose en échange un tout petit vers de Guillaume Apollinaire, restons français, qui dans le pont Mirabeau a ces deux vers. Comme la vie est lente et comme l'espérance est violente.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane Hessel.
Je me suis levé un matin, sombre jour de l'existence. J'ai levé la voix et le poing, quand la règle était le silence. J'en ai vu monter dans des trains, partir dans un brouillard immense. Je ne pouvais être ni complice ni témoin, je suis entré en résistance. Une voix pavée d'espérance, peuplée de femmes et d'hommes debout. Un choix comme une évidence, entre potence et corps de cou. Je suis revenu de si loin, je rends grâce à mon étoile. La mort m'a oublié en chemin, à Dora et à Bourneval. 93 ans, je peux croire que ma fin n'est plus très loin. 93 ans, voici ma mémoire. Prenez-en le plus grand soin, l'indignation obstinément. Dans un monde au garde à vous, soyez de ceux qui marchent contre le vent. Mes amis, indignez-vous, indignez-vous. Qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Nos chaînes sont certes moins visibles qu'au sombre temps de l'esclavage, mais nos esprits sont pris pour cible. Qu'ont-ils fait de notre héritage? Compétition à outrance, amnésie généralisée, produit de consommation de masse pour une jeunesse anesthésiée. Il est grand temps, mes amis, de rallumer enfin les étoiles qui ont guidé toute sa vie. Ce vieux monsieur qui vous parle, oui, j'ai été cet Arménien, je suis toujours ce juif allemand, je suis le peuple palestinien. La justice est mon seul camp. Soyez citoyens sans frontières de ces peuples qui se soulèvent, contaminez la terre entière de vos révoltes et de vos rêves. Indignez-vous, c'est votre droit. Et en mémoire de tout cela, qui meurt encore de ne pas l'avoir, ce droit est de fait un devoir. Indignez-vous.
À mon avis, le bonheur, ne commence à avoir toute sa force que lorsqu'il peut se répandre autour de la personne heureuse. J'ai eu la chance d'être un enfant très heureux. Ma mère m'a appris la force du bonheur en me disant « Le bonheur est contagieux, mais le bonheur ne devient pleinement bonheur que lorsqu'il se répand d'une personne heureuse vers d'autres personnes qu'elle rend heureuse. » Et je considère que c'est quelque chose pour lequel il y a des responsabilités. Lorsque des oligarchies puissantes empêchent le démos, celui qui devrait bénéficier de la démocratie, d'être heureux, alors cette responsabilité mérite l'indignation.
C'était une émission spéciale consacrée à Stéphane Hessel, décédé cette nuit à l'âge de 95 ans. Merci à Dominique Vidal. L'entretien de Daniel Mermet avec Stéphane Hessel a été diffusé pour la première fois le 8 janvier 2009. Le documentaire « Sisyphe heureux », réalisé en 2010 par Sophie Le Chevalier et Thierry Neuville, sera rediffusé demain soir jeudi à 21h40 sur France 5. Et ce soir, un rassemblement est prévu place de la Bastille à Paris, à 19h, en hommage à Stéphane Hessel. Par ailleurs, nous nous associons aux autres hommages prévus sur l'antenne de France Inter, aujourd'hui à 18h20 dans Downtown, et les vendredis 1er et 8 mars prochains, dans l'émission Nous Autres, où Zoé Varier reviendra sur des entretiens réalisés en 2008 avec Stéphane Hessel. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, franceinter.fr, sur le site là-bas.org, là-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Florent Layani et Alexandre Chenet. Cette émission a été réalisée par Lucie Hakoun et Chloé Sanchez et préparée avec Grégory Salomonovitch. Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.